RFI. Grand reportage.
On a trouvé des bouteilles, des gobelets, des bols en plastique. Et les chaussures, les tongs, là, j'en fais quoi? Ça se recycle, des tongs? Je sais pas, moi.
Avec 8 sacs plastiques par jour et par personne, la Thaïlande est le 5e pollueur mondial des océans. Aux abords des villes, des décharges monstres débordent, la faune marine se meurt. En réaction, un mouvement citoyen anti-plastique est en train d'émerger dans le pays. En Thaïlande, les moines et la jeunesse à l'assaut du plastique, c'est un grand reportage de Carole Isou.
Équipés de gants, de pelles et d'une bonne dose de bonne humeur, ils sont venus à près d'une cincantaine ce matin dans le quartier de Bang Krachao, surnommé le poumon vert de Bangkok, une zone boisée au bord de la rivière à une vingtaine de minutes du centre de la capitale thaïlandaise. Les habitants, une communauté d'ouvriers et de pêcheurs y vivent dans des petites maisons en bois. En fin de semaine, les classes moyennes viennent y faire une balade à vélo au milieu des grands arbres et désormais, 2 tonnes de déchets plastiques charriés par le fleuve. Sous l'impulsion d'associations locales, ces volontaires ont décidé de venir nettoyer ce qu'ils appellent la plage de Bang Krachao, en fait une bande de terre sableuse bordée par une forêt de mangroves. Sans relâche, ils ramassent ce vieux bidon de lessive, bouteilles de lait et filtres à cigarettes, et parfois d'autres déchets plus improbables. Il y a là des mères de famille thaï, des cadres moyens de diverses nationalités, des associations d'ouvriers migrants et surtout beaucoup d'étudiants. Les universités thaïlandaises sont très actives dans le mouvement anti-plastique naissant. Des nettoyages de ce genre ont désormais lieu chaque semaine dans les villes ou sur les plages thaïlandaises. Kanchana est la présidente du bureau des élèves de l'université agricole de Kasetsat. Elle encourage ses troupes au haut-parleur. Pour elle, pas de raison de désespérer. La jeunesse thaïlandaise a plein d'idées pour sauver la planète.
Beaucoup d'organisations, d'entreprises ont désormais des politiques en place pour encourager leurs jeunes employés à avoir des projets, des actions en faveur de l'environnement. Et ensuite, c'est contagieux. Quand il y a des inondations, maintenant à Bangkok ou ailleurs en province, les gens ont compris que c'était à cause des déchets qui n'ont pas été jetés correctement et qui bouchent les canalisations. Aujourd'hui, les étudiants et les lycéens ont des cours dans leur cursus sur la nécessité de sauver la planète, sur les moyens de le faire, sur les dommages causés par le plastique. Et ils ont tous des idées créatives pour inventer de nouveaux moyens de sauver la planète.
Après 4 heures de nettoyage par près de 40 degrés, les volontaires rassemblent les déchets pour les charger sur des camions garés non loin de là. Parmi ceux qui se démènent le plus, un groupe d'hommes au crâne rasé, à la toge orange, et oui, des moines bouddhistes. Des religieux qui portent des poubelles, l'image est peu commune au royaume de Thaïlande, où les moines font l'objet d'une déférence particulière, où parfois les fidèles vont jusqu'à porter pour eux des ombrelles pour les protéger du soleil. Ces moines viennent du temple Chat Deng, à quelques centaines de mètres de la plage nettoyée, surnommé le temple zéro déchet, car ses résidents sont devenus en quelques années des champions nationaux de la collecte et du recyclage des déchets. Chaque matin, ils ramassent sur terre et dans l'eau des kilos de déchets plastiques grâce à une observation rigoureuse de la nature, comme nous l'explique Ajahn Kai, l'abbé du monastère.
On collecte à une heure bien précise, à marée haute. Il y a une série de vagues qui amènent tous les déchets sur le rivage. Ensuite, avant que l'eau ne baisse, on a une fenêtre de 3 heures environ pour tout ramasser. Si on attend trop, alors tous les déchets sont entraînés par les courants vers l'océan. C'est important, l'observation de la nature, si on veut être efficace. On s'inspire des méthodes des pêcheurs.
Les volontaires arrivent au temple, debout à l'arrière de camionnettes, et commencent à décharger les sacs de déchets. Pour éviter les mauvaises odeurs et retarder la décomposition, les moines versent d'abord sur les poubelles une solution d'agrumes de leur production Et ça fonctionne. Malgré les tonnes de poubelles accumulées à l'arrière du temple, l'air y est tout à fait respirable. Les déchets sont ensuite triés, nettoyés, rassemblés en piles bien nettes. Pour les aider dans cette tâche, les moines peuvent compter sur une communauté d'ouvriers birmans qui habitent non loin de là et viennent chaque fin de semaine donner un peu de leur temps.
Le bouchon, on l'enlève. Le truc en plastique autour du goulot, on l'enlève. On enlève aussi l'étiquette. On ne garde que le plastique de la bouteille, en fait. Quand on a fini, on les met là, dans le sac. Nous, on travaille à l'usine, on est des ouvriers. On vient aider les moines le dimanche, pour faire quelque chose d'utile. On n'a pas beaucoup d'argent, nous, à donner au temple. Alors on vient aider sur notre temps libre pour faire du mérite.
Le mérite, une notion importante dans la religion bouddhiste, notamment pour s'assurer une bonne réincarnation. L'autorité morale des moines est encore très importante dans la société thaï, notamment dans les classes populaires. Pour Ajahn Chah, protéger l'environnement est en réalité un enseignement de base de la religion bouddhiste et c'est une question de respect de soi-même.
Dans les devoirs religieux bouddhistes, il est écrit très clairement qu'il faut tenir sa maison propre, sa chambre, sa salle de bain, l'hôtel du Bouddha. Si un bouddhiste vit dans la saleté, c'est un péché. Évidemment, ça vaut aussi pour l'environnement, l'endroit où l'on vit. Il est interdit de jeter des déchets dans l'eau, de salir la nature autour de soi. Si un bouddhiste tolère la saleté autour de lui ou sur lui, qu'il ne se coupe pas les ongles, qu'il porte des vêtements sales, qu'il sent mauvais, sa conscience de lui-même et du monde en sera altérée, ralentie. C'est pour ça que la protection de l'environnement est si importante dans notre religion. Si on vit dans un environnement propre, proche de la nature, avec une abondance d'oxygène, l'esprit en méditation s'élève plus facilement. Les arbres notamment jouent un rôle important. Le Bouddha est né sous un arbre, c'est encore sous un arbre qu'il est devenu l'éveillé, puis qu'il est mort. Les arbres sont des réservoirs d'eau, une source de vie. Ils favorisent la pensée. Les bouddhistes ont donc le devoir absolu de protéger les arbres. Certains croient aussi que des esprits y habitent. Les arbres sont le lieu de résidence de beaucoup d'espèces animales et leur fournissent de la nourriture, des fruits. Les arbres contribuent aussi à faire baisser la température de 3 ou 4 degrés. Dans l'état du monde d'aujourd'hui, c'est même un devoir de bouddhiste de planter des arbres. Depuis ses origines, le bouddhisme nous enseigne à protéger l'environnement.
Au temple, rien ne se perd. De l'huile est extraite des déchets organiques. Quant au plastique, il est d'abord broyé, transformé en minuscules pastilles, puis fondu et tressé en fibres de polyester afin d'en faire du tissu. Les moines emmènent les volontaires observer leur atelier de couture où travaillent plusieurs membres de la communauté sur des machines à coudre mécaniques. Comme ils ne sont pas autorisés à faire du commerce, les religieux se contentent de produire du tissu orange et marron, les deux couleurs du clergé masculin en Thaïlande, pour des robes de moines qu'ils distribuent gratuitement dans tout le pays. Il faut environ une douzaine de bouteilles plastiques pour fabriquer une robe. Et pour les moines qui le pratiquent, ce recyclage, l'idée que les objets peuvent avoir plusieurs vies, est une idée qui s'accorde parfaitement avec la philosophie bouddhiste.
Dans le bouddhisme, nous pensons que la vie et la mort sont des cycles qui se succèdent indéfiniment. Nous croyons à la réincarnation. Le recyclage, c'est un peu comme la réincarnation. Et ceux qui pratiquent le recyclage développent leurs capacités. On apprend beaucoup en recyclant. Il faut réfléchir et prendre le problème à la racine. Le coupable, ce n'est pas le plastique, c'est nous, l'homme. L'eau sale, ça n'existe pas, ça n'est jamais vraiment l'eau qui est sale. Il n'y a pas d'environnement toxique, il n'y a que des déchets toxiques qu'on met dans l'environnement. Il faut apprendre à séparer les problèmes pour les résoudre. C'est la même chose que de trier les déchets. Dans notre cœur, c'est pareil. Il faut trier les sentiments, la colère, l'envie, l'égoïsme, comme des déchets, et les transformer en sentiments positifs. Tout le monde a envie de bien faire. Personne n'a envie de tuer l'environnement. Mais la différence, elle, se fait sur les actions. Trier ses sentiments, les transformer, c'est la première étape. Le recyclage du cœur, grâce à la respiration notamment. Une fois qu'on a atteint cette étape, la prochaine fois qu'on utilise du plastique, on va être plus conscient. Est-ce que je pourrais faire autrement ou vais-je le jeter? Mais si on n'est pas présent à soi-même, on va oublier à nouveau, recommencer les mêmes erreurs. Donc finalement, le plus important, c'est d'abord le recyclage de nous-mêmes, de notre pensée, de notre façon de faire, pour pouvoir changer.
Aujourd'hui, dans l'assistance captivée, une enfant de 11 ans est particulièrement attentive. Lily est avec sa mère, Sassy. Après avoir aidé à nettoyer la plage, ce matin, elles sont venues écouter les moines. Toute frêle, sous ses longs cheveux bruns, la petite Lily est pourtant une féroce activiste, connue dans tout le pays. Dès qu'elle a un moment de libre, elle va faire le siège des grandes chaînes de distribution pour leur demander de cesser de distribuer des sacs plastiques. Lily est obsédée par la pollution plastique depuis qu'elle a 8 ans.
Ça a commencé quand j'étais toute petite. Avec ma maman, on a toujours été très consciente des questions d'environnement. Un jour, on était sur la plage, il y avait plein de déchets partout. Mais on s'est dit que si on se mettait à ramasser, il y aurait à nouveau autant de plastique le lendemain. Alors on est allé combattre le problème à la source. On est allé voir les gens qui vendaient ou donnaient le plastique. Ça m'a donné l'idée d'aller voir différentes entreprises et des grandes chaînes pour leur demander d'arrêter l'usage des sacs plastiques au moins une fois par mois. Et j'ai obtenu du succès. La plupart ont arrêté de distribuer des sacs plastiques tous les 3 et 4 du mois et les 14 aussi.
Des résultats impressionnants dus à l'entêtement d'une seule petite fille et de sa mère qui la soutient. La presse locale la surnomme déjà la Greta Thunberg thaïlandaise. La comparaison la flatte et la fait rire, mais selon elle, la culture thaïlandaise qui évite la confrontation exige des méthodes plus douces, plus collaborative, plus constructive peut-être que celle des ados européens.
That's great. She is really inspirational, especially for the youth. And there is certain ways we can go.
C'est super. Elle nous inspire beaucoup, nous la jeunesse. Mais on a nos propres méthodes. On essaie de parler, de communiquer avec les pollueurs, pas de leur crier dessus, de leur donner leur sentiment qu'on est ensemble dans ce problème. C'est ce que j'essaie de faire. Bien sûr, il y a des méthodes plus radicales. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas de faire honte aux pollueurs. Parfois c'est bien, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de les critiquer. Il faut leur offrir des solutions possibles. Donc par exemple, si on fait une manifestation, on ne dit pas « vous tuez l'environnement ». Mais plutôt, on pourrait faire tellement de choses pour l'environnement. Commençons par ça.
Malgré les efforts de Lily et de ses camarades, la situation est critique en Thaïlande. Les grandes chaînes de distribution portent une part importante de responsabilité, mais il y a aussi le secteur informel, difficile à réguler, dont les acteurs sont en général de petits vendeurs au salaire modeste qui n'ont pas pour l'instant d'alternative viable au plastique. Les Thaïlandais aiment acheter des plats préparés frais dans la rue qu'ils mangent ensuite chez eux ou au bureau. Chaque plat est accompagné en général de crudités, de sauce, chaque élément est emballé individuellement. Mais une lueur d'espoir pointe à l'horizon puisque le gouvernement thaïlandais a annoncé récemment qu'il prévoit d'interdire 3 sortes de plastique en 2020. Les microbilles, les joints en plastique qui servent à sceller les bouteilles, enfin les produits oxodégradables. D'ici 2022, la Thaïlande voudrait aussi interdire les pailles en plastique et les boîtes en polystyrène utilisées pour les plats à emporter. Ces mesures sont aussi le fruit des efforts d'activistes professionnels qui réalisent un énorme travail d'information du public et de pression. Wirawat Bib est un ancien lobbyiste pour le compte d'une marque de cigarettes. Issu d'une grande famille politique thaïlandaise, il a décidé un jour de plutôt mettre ses relations au service de l'environnement. À la tête de l'association Trash Hero, le héros des poubelles, il organise conférences et séances de nettoyage quasi tous les jours. Une goutte d'eau dans l'océan pour l'instant, mais il veut croire que grâce aux réseaux sociaux, son action peut faire une différence.
I think the best is to hands-on. That's why we do our events online. We post and
je pense que le mieux c'est toujours de montrer l'exemple. C'est pour ça qu'on diffuse nos événements en ligne, on poste, on partage, on invite d'autres à venir nous rejoindre, on fait des séances de nettoyage dans les lieux publics. Les médias des réseaux sociaux sont vraiment un outil très utile pour nous et pour vous donner une idée de l'impact qu'on peut avoir. Je regardais l'autre jour une interview de Marc Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il disait qu'il avait remarqué plusieurs vidéos de personnes qui ramassaient des déchets plastiques dans leur communauté et que pour mettre en valeur ces histoires positives sur Facebook, il travaillait sur l'algorithme afin que ce genre d'initiative positive soit plus visible. Donc on voit bien que chacun a son rôle à jouer, tout le monde peut faire une différence. Peut-être que si je m'étais lancé là-dedans avant les réseaux sociaux, je n'aurais pas eu de chance de toucher grand monde. Mais aujourd'hui, vous prenez une photo de gens ordinaires en train de faire quelque chose de positif pour leur communauté, et puis quelqu'un la voit et se dit « Moi aussi je veux le faire ». Tout le monde pourrait faire plus, tout le monde doit faire plus sur cette question. Il faut arrêter de montrer du doigt, ça nous est tous arrivé de faire des choses dont on n'est pas fier. Ce qui compte, c'est ce qu'on veut faire maintenant, ce qu'on veut changer. C'est ce genre de changement que je veux aider, que je veux diffuser.
Le pouvoir des réseaux sociaux et des symboles pour engager ceux qui ne sont pas intéressés, les activistes thaïlandais l'ont bien compris. Ces derniers mois, les défenseurs de l'océan se sont choisis un animal mascotte, le dugong, un paisible mammifère marin herbivore, aussi appelé vache de mer. La toute jeune Mariam, ainsi qu'elle avait été baptisée par ses sauveteurs, avait été trouvée au large des côtes de la presqu'île de Phuket, au sud du pays. Séparée de sa mère, qui serait morte par ingestion de plastique, le bébé dugong, très affectueux avec les êtres humains, est rapidement devenu la coqueluche des réseaux. Une chaîne de télévision diffusait 24 heures sur 24 ses progrès. Mais Mariam a fini par mourir d'une infection. Elle avait elle aussi du plastique dans l'estomac. Elle est devenue le symbole de la lutte contre la pollution plastique en Thaïlande. Pour les moines bouddhistes, le recyclage et l'interdiction de certains plastiques n'auront pas raison du problème. La baisse de la consommation plastique ne peut venir que d'une baisse de la consommation tout court, des changements profonds de mode de vie et de pensée. Retour au temple Chat Deng, les moines reçoivent aujourd'hui des étudiants de première année et leur demandent de se livrer à un petit exercice. Les étudiants sont assis en cercle. Ajahn Kai se saisit du sac d'une jeune fille qu'il fait passer à la ronde et leur demande d'énumérer toutes les propriétés du sac, toutes ses fonctions possibles, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à sa fabrication, du directeur marketing à la femme de ménage de l'usine qui l'a produit. Il s'agit de faire prendre conscience aux jeunes étudiants de toutes les ressources humaines et matérielles mobilisées pour la production d'un seul objet et de l'interconnexion des actions humaines. Pas de sermon sur la nécessité de consommer moins, mais simplement une attention particulière portée à l'objet et aux ressources mobilisées pour le produire. La journée s'achève par une réflexion sur le bonheur. Que faut-il posséder pour y arriver? Quel degré de connexion aux autres faut-il avoir pour être heureux? Ce n'est qu'en répondant à ces questions avec sincérité, estiment les moines, qu'on peut espérer faire diminuer la consommation en général, celle de plastique en particulier. Le chemin est encore long à parcourir, même si certains, au temple Chat Deng, ont pris un peu d'avance.
En Thaïlande, les moines et la jeunesse à l'assaut du plastique. Un grand reportage de Carole Izou. Réalisation Pierre Chaffanjon. Un magazine à retrouver sur le site de RFI.
ใช้ชีวิตจริงดังในบ้านในร้านนอนดึกผู้คนมากมายหลากหลายเข้าออกคำถามซ้ำๆเรื่องความมั่นคงวนเวียน